France Musique. Les grands entretiens, Thierry-Paul Benizot, France Musique.
Je suis Kenneth Weiss, je suis né le 4 janvier 1963 à New York City et je suis claveciniste.
Kenneth Weiss, Gustave Léonard, c'est une figure légendaire. Vous envoyez votre démo en croisant les doigts en disant « pourvu qu'il me prenne comme étudiant ». C'était vraiment ça.
Voilà, et donc j'ai eu les réponses dans son écriture. Voilà, qu'il dit qu'il pouvait me remercier pour la cassette et il avait en place pour moi. Ça devait être 1987, 6 ou 7.
Et vous venez chez lui, il a une maison...
Donc il avait une maison historique magnifique dans le Ehrengracht, une très très grande maison. Je me rappelle très très bien, il fallut monter quelques marches, on sonnait, on entendait sur le parquet ses chaussures qui allaient ouvrir la porte. Il avait la porte, il était toujours en costume et cravate, donc extrêmement formel. Et pendant toute l'année, quand j'ai pris le cours avec lui, j'ai jamais vu quelqu'un d'autre dans la maison. Il n'y avait pas un autre élève qui allait sortir. Il n'y avait pas quelqu'un d'autre après. C'était juste nous deux dans cette maison magnifique. Il avait un salon de musique immense. Il s'est mis très très loin de le clavecin, à l'autre côté de la pièce. Et les cours n'étaient pas vraiment fixés d'un heure précis. Je veux dire, on a commencé à un heure précis, mais le durée était jamais pareil. Parfois, les cours allaient pendant les heures, et parfois, c'était peut-être juste une heure. Mais j'aurais pensé c'était selon ce que j'avais préparé, mais peut-être qu'il y avait d'autres choses. Mais en tout cas, j'ai senti qu'il y avait que moi, et il n'y avait pas un autre élève, et ça, c'était quelque chose qui... ça, c'était magnifique, ça, c'était magnifique.
Il intervenait beaucoup ?
Non, il était plutôt, je me souviens que si j'avais une suite, une partita ou quelque chose qui durait, je sais pas, 20 minutes, en plus, il aurait entendu en entier. Les choses que les gens disaient de Leonhardt avant, c'est qu'il faut pas jouer la même chose deux fois. Il aime pas écouter la même chose, ça c'était vraiment... Sur certaines occasions, peut-être que le Verse Goldberg, j'ai joué deux fois, mais sur les autres, c'était énormément de répertoire, parce qu'on pouvait jouer... Bon, je pouvais jouer un morceau de suite de Dangleberg, je m'appelle bien. Ça m'a pris beaucoup de temps de monter, peut-être une vingtaine de minutes... Et après, il a dit, il faut plus de parfum. Il aurait dit quelque chose qui était extrêmement cryptique pour moi à l'époque, sans vraiment parler de choses concrètes, de comment avoir plus de parfum dans le jeu. Mais il sentit pas, je pense, une obligation de transmettre quelque chose à ce moment, que je comprends à ce moment. J'ai compris des années après. Donc, cette fameuse plus de parfum, je comprends maintenant. C'est l'ambiance et c'est l'attitude. Mais il sentait pas que là, il devait me dire sur quoi je devais travailler. Donc il y avait certaines choses qui étaient un petit peu cryptiques, mais en même temps, il était très encourageant.
Thank you.
Le meilleur moment, le meilleur souvenir de cours que j'avais, c'était quand lui jouait lui-même, pour montrer un exemple. Donc s'il n'avait pas beaucoup de mots, quand il jouait, c'était d'un seul coup, la chose qui était incroyable.
De l'entendre. Et là, vous commencez à humer le parfum, justement, à ce moment-là.
Oui, et de le voir ses mains bouger, comment c'est la qualité de son toucher, les sons qui sortaient. Là, j'apprenais, je dirais, le plus quand j'avais vraiment à côté de lui, en train de lui voir jouer. C'est pas quelque chose qu'il faisait beaucoup. Il y a certains profs qui montrent plutôt que parler. Lui, il a frappé ni l'autre en excès, mais quand il a joué, c'est là où j'ai appris le plus. Et je me rappelle d'avoir demandé, est-ce que vous pouvez faire ça encore? Parce que j'étais là, que ça c'était la doigté, il a mis ça, il a fait ça, il a dit non. Donc c'était pas pour lui copier, il n'était pas intéressé, c'était juste, mais c'était divin quand il jouait.
Quels étaient les compositeurs qui vous faisaient travailler le plus?
Il suggérait pas trop le répertoire. Donc, c'était plutôt les choses que moi, s'y ramenais. Et là, c'est à ce moment, on pouvait voir ce qu'il pensait des compositeurs. Il y avait un moment, j'ai joué le Fandango de Soler. Et donc là, il a dit, peut-être pour un fête, on peut le jouer, mais il ne pensait pas que c'était quelque chose qui était, vraiment digne d'un cours. Et de François Couperin, il pensait que c'est une très très grande musique, mais presque trop fin pour jouer en public. Que le public, il pouvait pas vraiment comprendre. Donc peut-être mieux pour le récital, jouer plutôt Louis Couperin, les choses qui projectent avec plus de facilité.
Comment était-il? Parce que tel que vous le décrivez là, on a l'impression d'un personnage assez hiératique, mais il était chaleureux en même temps.
Je dis, il est extrêmement sobre. Moi, j'étais extrêmement impressionné d'être dans sa présence. Je pense qu'il y avait d'autres élèves qui ont arrivé de faire parler de petites choses avec lui, mais j'avais du mal de parler d'autres choses en dehors de la musique. J'étais pas vraiment à l'aise. Avec d'autres gens, oui. Donc, je sais pas, il y avait un certain distance. Je n'ai jamais entendu élever sa voix. Il n'avait jamais eu, de menaçant. Il était jamais, quelqu'un avec beaucoup de égalité. Il était très stable. Il me semblait juste extrêmement stable. En tout cas, ce qu'il montrait à moi et au monde était quelqu'un qui était vraiment en contrôle à tout moment.
Kenneth Weiss, parallèlement, lorsque vous avez donc intégré le Zwellink Conservatory, vous avez aussi étudié avec Robert Hill et Ton Kopman,
c'est ça ? Oui, voilà. Donc là, j'avais, avant de pouvoir entrer dans la classe de Leonhard, j'étais déjà en Europe, et donc j'ai eu la chance de pouvoir étudier avec Ton Kopman, et parallèlement aussi avec Robert Hill.
Qu'est-ce que vous étudiez avec ces deux musiciens?
Moi, avec Robert Hill, c'était quand j'étais en train de préparer une variation Goldberg pour la première fois, pour jouer un concert. Donc lui, il servait vraiment pour un coach pour moi, pour ce morceau. Il était à l'époque extrêmement provocant et posait beaucoup de questions. Donc ça, c'était quelque chose de bien pour moi à cette époque. J'avais besoin de ça. Et Ton Kopman, il avait des cours que en groupe. À l'époque. Donc, il y avait des clavecinistes de partout dans le monde qui allaient. Il avait un classe de peut-être plus d'une vingtaine de personnes. On était tous dans la pièce en même temps. C'était à thème, donc c'était le fugue ou prélude non mesuré chaque mois. Donc, on entendait les autres élèves d'autres pays en train de le jouer les mêmes morceaux. Et ça, c'était vraiment d'installer cette école hollandaise de clavecin qui était très pointu.
Oui.
Ça, c'était très pointu. Donc, c'était cette première expérience à comment les Hollandais jouent le clavecin. Et c'était ce que tout le monde, dans tous ces pays, était en train d'apprendre. Donc, il y avait une grande communauté. J'avais beaucoup d'amis, encore aujourd'hui, de partout dans le monde, qui étaient élèves à Amsterdam en même temps. Il y avait des soirées Vorspielabend quand il y avait tous les élèves de tous les professeurs qui ont joué chacun devant et chaque élève devait dire les critiques sur les autres élèves. Ça, c'était...
Ah oui, ça devait être des sessions assez passionnantes, non?
Et en même temps... Passionnantes, très intenses et très difficiles, mais aussi très bénéfiques.
Vous avez passé combien d'années en tout au Sveling?
Au Sveling, donc j'étais à 2 ans.
2 ans. Et au bout de 2 ans, vous avez un diplôme.
J'ai un diplôme.
Et vous raflez un prix au MA Festival de Bruges.
Oui, ça c'était juste un petit peu après. Donc déjà, je suis commencé de venir en France un petit peu. Je suis installé à Paris après Amsterdam. Et il y avait le concours, il y avait déjà le concours de clavecin à Radio France, qui n'existe plus. Donc j'ai fait ça pour la première fois, je pense, en 85, peut-être après. 89, donc concours de Bruges.
C'est un grand festival de musique ancienne, le MA Festival de Bruges.
Oui, c'est bien sûr. Leonhard était sur le jury chaque année et je l'ai fait en 1989.
Mais vous avez déjà commencé votre carrière de soliste depuis 3 ans avant, disons.
Oui, je veux dire, il y avait beaucoup d'opportunités. J'avais pas vraiment des contacts en France, mais aux Pays-Bas, il y avait énormément de concerts pour aller écouter, pour jouer ensemble. Il y avait vraiment beaucoup d'occasions. Donc, je dirais à ce moment, j'ai joué beaucoup aux Pays-Bas, beaucoup plus qu'ici. Et puis en France, ça c'était... Bon, juste les liens avec les familles que j'avais ici, de commencer d'apprendre français, essayer de gagner ma vie un peu et de travailler pour ce concours. Donc là, les premières années en France, sans vraiment comprendre ce qui se passait, parce que je comprenais pas le français, étaient formidables.
C'était dur,
c'est un endroit. Oui, mais c'était un endroit magnifique. C'était tout à découvrir. Mais j'ai travaillé beaucoup en même temps, juste mon clavecin.
Vous aviez un agent?
À cette époque, non. Mais j'étais grand ami avec Ian Malkin, qui est devenu mon agent.
Vous habitiez où à Paris quand vous êtes venu vous installer?
Ah, je pense assez itinérant. Les premiers, les pauvres jeunes musiciens dans une sous-location ici, là, je devais avoir peut-être 15 appartements différents pendant les années dans tous les quartiers différents, un peu partout à Paris.
Et vous arriviez toujours à trouver un clavecin, quoi qu'il arrive.
Mais ça, c'était la chose pour les clavecinistes. Il faut toujours avoir un mur qui est assez grand pour un clavecin. Et donc, beaucoup de petits appartements n'ont pas. Et puis, il faut avoir l'accès, voilà. Donc ça, c'était une chose. C'était la première chose, la plus importante, qu'il y a la place pour le clavecin.
Les grands entretiens de Kenneth Weiss, France Musique.
Alors, à cette époque, j'ai fait... j'avais un bourse pour étudier aux Pays-Bas. J'avais un bourse à Oberlin aussi. Et en France, alors, j'ai donné des cours de piano. Et j'ai aussi fait des cours d'anglais pendant un moment.
Ça, c'était un peu la vie de bohème, finalement, Kenneth Weiss.
C'était magnifique, ces années. J'ai beaucoup aimé ces années. Et puis après, la vie professionnelle, ça a devenu plus... Ça a commencé après.
C'est arrivé très vite et très foisonnante, finalement.
Oui, donc aussi, j'ai accompagné des cours. Donc, j'ai accompagné des cours de chant de Jill Feldman, que ça, c'est une magnifique chanteuse qui a chanté avec les Affleurissants, un des fondateurs. Elle donnait des cours ici à Paris, technique vocale, et j'ai joué du piano et le clavecin, et elle avait beaucoup d'élèves. Et elle était un pédagogue incroyable. Donc j'ai fait tous ces cours aussi, qui a fait que j'ai joué plus de continuo, et ça allait que j'ai fait des répétitions de chœur, et ça a fait que je suis devenu un petit peu répétiteur, claveciniste, quelque chose qui n'existait pas vraiment à l'époque.
Kenneth Weiss, comment vous êtes rencontré avec William Christie?
Je pense que la première fois que je l'ai entendu, c'était une répétition de Dido and Aeneas. Et c'était pendant qu'ils étaient en train de faire l'enregistrement. C'était un petit peu en même temps que j'étais à Paris pour le premier concours de 85 à Radio France, pour le concours de clavecin. Il y avait Scott Ross qui était sur le jury.
Sévère, Scott Ross, hein?
Et donc là, j'ai rencontré Bill à ce moment. Et c'était juste quelques années après que là, il m'engageait pour commencer d'accompagner les répétitions de chœur.
Il a commencé à vous confier beaucoup plus de responsabilités au sein de l'ensemble après.
Tout à fait. À l'époque, il y avait énormément d'opéras en France. Opéra baroque. C'était les choses qui n'existaient pas aux Pays-Bas. De venir en France, c'était vraiment que la musique ancienne était vocale. Et puis, en plus, en français. Donc, c'était un style qui était complètement différent. C'était tellement convaincant et magnifique ce que les Affleurissants, ce qu'ils étaient en train de faire à ces chanteurs. Donc, de pouvoir faire partie de ça était magnifique. Mais il y avait beaucoup d'opéras. Donc, à l'époque... L'opéra, c'est 4-5 semaines de répétition. L'orchestre vient juste à la fin. Mais pour être avec le metteur en scène et les chanteurs, il faut l'accompagnement. Donc j'étais seul pour jouer tous les parties, en réduction, un petit peu les compétences que j'avais. Il y avait d'autres, il y avait Christophe Housset, il y avait Yvan Réperan, le merveilleux claveciniste qui était les continuistes dans l'ensemble. Mais puis après, il y avait tellement de choses, donc il faut faire aussi le spectacle. Parmi les premières fois que je l'ai rencontré, j'ai entendu Attis à l'Opéra de Versailles. J'ai jamais entendu une chose pareille. Ça, c'était incroyable. Ça, c'était aussi un des spectacles qui m'a vraiment changé de direction de pensée. J'étais tellement impressionné. J'aurais jamais pensé de pouvoir comprendre cette musique et de faire partie. Mais je suis très content. Je l'ai fait la dernière reprise. Donc, j'ai fait partie de cette... chose historique, ce qui était le Attis de Lully avec William Christie et Jean-Marie Villégier.
Et ça a duré combien de temps, votre collaboration au sein de l'ensemble?
Quand j'étais vraiment là, au plein temps, et là c'était vraiment plein temps, c'était comme, je sais pas, 10 mois par an, qui est immense, hein. C'était peut-être pendant 4 ans.
Il vous a confié pas mal de choses, finalement, Bill.
Il y avait certaines choses qu'il a confiées, qui étaient vraiment les choses magnifiques. Un, ça, c'était au Opéra de Paris, parce qu'il a fait un spectacle avec Jerry Killian et le corps de ballet et les étoiles de ballet de l'Opéra de Paris. Et donc, D'où mon songe, ça s'appelait D'où mon songe. Et il y avait beaucoup de spectacles, donc là, il m'a confié en partie. L'autre chose, c'était avec la Comédie Française, où il y avait pendant 3 saisons 2 pièces de collaboration entre Molière et Charpentier, où juste par le nombre de spectacles, ils pouvaient pas tout faire. Donc là, il m'a confié un bon parti, et ça, c'était une source de des grandes joies d'être avec les danseurs, les premiers danseurs et les premiers comédiens de la France. Pouvoir travailler avec eux, ça, c'était magnifique.
Vous avez fait vos armes, comme on dit, en tant que chef d'orchestre, là, carrément, puisque vous aviez à diriger les Arts Florissants.
Alors, j'ai jamais dirigé l'orchestre des Arts Florissants. Le grand orchestre, non, le grand projet. J'étais assistant musical pour beaucoup de spectacles. Donc ça, c'était le travail du chœur. Ça, c'était un travail de soliste. Mais pour Doux Mensonge, ça, c'était Jerry Killian. Il a un goût extrêmement sophistiqué pour la musique. C'est lui qui a choisi la musique. Il y avait des madrigaux de Gesualdo et les madrigaux de Monteverdi.
C'est ça.
Et ça, c'était un ensemble de cinq chanteurs. Et ça, je dirigeais. Donc ça, c'était pour coordonner justement la danse où il y avait le vidéo, il y avait le bruitage, il y avait sous la scène de Garnier, les ascenseurs qui montaient, les chanteurs qui aussi étaient en train d'être élevés. Donc ça, c'était plutôt pour mettre les choses ensemble, un battre de mesure. Donc là, c'est ce que j'ai fait là. Fois que j'ai commencé avec les danses modernes, c'était en collaboration avec la grande danseuse américaine Trisha Brown. Et ça, c'était Bernard Foucault, l'organiste qui était directeur de la Monnaie à cette époque. Il nous avait mis en contact. Il a été un grand soutien pour Trisha Brown. Et lui, il a suggéré pour elle de faire un ballet sur Bach. Jusque-là, Trisha Brown, moderne, post-moderne.
Il s'appelait Mo.
Il s'appelle Mo. Donc, c'était sur le fond musical. Donc, j'ai discuté avec elle très, très longtemps sur la partition, qui est extrêmement complexe. De contrepoint, c'est un des grandes œuvres contrepartiques de Bach. Et elle était, avec beaucoup de questions, fascinée. Du coup, elle a développé un vocabulaire pour cette œuvre. Et on a tourné pendant plus que 2 ans à travers le monde. Il faut 4 musiciens pour le jouer. Et j'étais directeur musical, mais l'idée, c'était dans chaque ville, dans chaque pays, c'était de faire avec les musiciens locaux. Et ça, c'était la particularité qui était vraiment enrichissant.
Kenneth Weiss, comment était-elle? Quels ont été vos rapports?
C'était quelqu'un extrêmement douce et puissante à la fois. Trisha Brown, elle parlait très bas. Elle avait le visage extrêmement ouvert. Quand vous avez parlé, elle vous a regardé droit dans les yeux, vraiment d'être extrêmement sincère de l'entendre. Elle parlait peut-être lentement. Elle réfléchissait avant de parler. Les danseurs dans son compagnie avaient les mêmes façons d'être un peu. Ce que j'ai appris, autant que la musique est tellement magnifique qu'on ne doit pas mettre les mots. Non, ça parle directement à nous comme personne, quoi, nos sentiments. La danse est pareille. Ils n'ont pas besoin vraiment de parler. C'est le mouvement du corps qui donne l'expression humaine. Et c'est extrêmement beau. C'était un magnifique souvenir, voilà. Et j'ai compris l'abstraction. Les choses qui doivent pas aller ensemble. J'ai un souvenir, donc on a parlé beaucoup, elle a commencé de travailler. J'ai vu peut-être 3 mois après qu'elle a commencé de donner ce nouveau vocabulaire aux danseurs dans beaucoup de workshops. Elle avait la bande que j'ai fait avec des musiciens et elle m'invitait de voir une séance de travail et elle me demandait ce que j'ai pensé après. Et elle était extrêmement sincère, elle voulait vraiment avoir la réponse. Donc je lui ai dit, bon, il y a la partie, je pense que ça va parfaitement avec la musique. Et les autres endroits, je ne vois pas comment ça va avec la musique. Donc elle m'a répondu, dis-moi où ça va avec la musique, je dois le changer. Donc ces idées étaient en fait les éléments qui devaient être là, mais c'était pas dans l'esthétique, dans la nécessité que ça parlait. C'était avec le conflit qui pouvait être les choses, la coexistence des choses, que c'était un grand leçon.
Extrait de l'offrande musicale dans l'interprétation de Zacher Gert. À la prise de son, Florent Layani, au mixage, Julien Douminck, attaché de production, Flora Sternadel, et réalisation, Marie Groux. On se retrouve demain pour la suite de ce grand entretien avec Kenneth Wise.
À réécouter sur francemusique.fr.